ton avis, Bourg-en-Bresse en 2050, ça ressemblera à quoi?
Tu crois qu'on entendra toujours le chant des oiseaux?
Aurais-je trop chaud dans mon appartement l'été?
Tu penses qu'on pourra faire pousser des légumes sur le toit?
Est-ce que je me sentirai à ma place dans cette ville?
Est-ce qu'on sera solidaire entre nous?
Quand on pense à la ville du futur, on se pose plein de questions.
Et toi, t'en penses quoi?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Notre ville, regard vers le futur. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration de ce à quoi pourrait ressembler notre ville de Bourg-en-Bresse à l'horizon 2050. Et on s'intéressera aujourd'hui à la question des mobilités. Bourg-en-Bresse pourrait-elle en effet devenir une ville pionnière dans les mobilités durables? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Isabelle Mestre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Camille.
Vous êtes vice-présidente de Grand Bourg Agglomération, déléguée au transport et aux mobilités. Et vous êtes également première adjointe à la ville de Bourg-en-Bresse, chargée de la transition écologique et des espaces publics. Alors Isabelle, avant d'aborder du coup la situation spécifique de Bourg-en-Bresse et de son agglomération, je voulais vous proposer de reposer juste le contexte et les principaux enjeux des mobilités à l'horizon 2050, et ce à l'échelle nationale. 2050, c'est le cap que s'est donné à travers la signature de l'accord de Paris en 2015, l'objectif d'atteindre du coup la neutralité carbone, objectif qui a été ratifié par la France. Pour atteindre cette neutralité carbone, on doit réduire nos émissions de CO2 et ça passe notamment par les transports qui est un des plus gros postes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors il y a bien évidemment la question du fret qu'on n'abordera pas ce soir, mais à l'échelle des mobilités individuelles, l'un des plus gros enjeux est de repenser nos modes de déplacement. On a plusieurs leviers pour faire ça, réduire la place de la voiture individuelle, favoriser les mobilités douces comme la marche et le vélo par exemple, mais aussi repenser l'urbanisme pour créer des villes plus durables. D'autres facteurs, qui soient démographiques et sociétaux, sont aussi à prendre en compte pour relever le défi de la décarbonation des mobilités, et on va l'aborder. Le vieillissement de la population, l'essor du télétravail, et ce qui va aussi nous intéresser, c'est les besoins spécifiques des zones périurbaines. Alors Isabelle, on voit bien avec ces quelques éléments que la question des mobilités à l'horizon 2050, elle est quand même assez complexe. Parce qu'elle se joue à différents niveaux, qu'ils soient individuels en tant que citoyen, mais aussi collectifs en tant que collectivité. Sur cette première partie, donc je citais juste avant la réduction de la place de la voiture individuelle en ville. Est-ce que, selon vous, du coup, c'est envisageable pour Bourg-en-Bresse en 2050 de voir disparaître la voiture individuelle? Et si oui, par quoi est-ce qu'on pourrait la remplacer?
Alors 2050, ça peut paraître loin, mais c'est demain finalement.
Tout à fait.
Et les jeunes conducteurs de demain en 2030 ne sont pas encore nés, mais ils ne vont pas tarder à naître. Et donc le saut sur 2030, plus de voitures individuelles, est peut-être un peu grand. Un peu plus tard peut-être, mais y a certaines étapes à passer, je pense. Et qui dit réduction de la voiture individuelle, dit alternative à la voiture individuelle. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on s'efforce à faire sur notre territoire, de pouvoir proposer des modes alternatifs à cette voiture individuelle ou de rendre la voiture individuelle comme un mode de transport collectif avec le covoiturage. C'est aussi un levier important. Donc, ça passe nécessairement par deux jambes. Pour bien marcher, il faut deux jambes. Donc, deux investissements. Donc, des investissements dans des flottes de bus électriques, par exemple. Des investissements dans des aménagements de pistes cyclables. Et puis, l'autre jambe, c'est la partie changement de comportement. Et donc là, on met le paquet sur l'agglomération pour des animations. Et donc, expliquer les différentes solutions de mobilité alternative à la voiture individuelle. Après, en 2030, moi, je rêverais que Bourg, on ait des funiculaires, on ait des tyroliennes pour les enfants pour se déplacer de village en village, on peut imaginer plein de choses hein, pour la mobilité. Bon, après, il y a un principe de réalité qui fait que la ville du futur, elle se construit aussi avec la ville d'aujourd'hui. Mmh. Il y a un constat qui est Bourg-en-Bresse, la nuit, c'est 45 000 habitants et la journée, on double parce qu'on a une transhumance des personnes qui viennent travailler sur Bourg-en-Bresse et son agglomération très proche qui est très importante. Mmh. Et donc, ces transports s'organisent et devront encore plus s'organiser demain parce qu'en fait, on est quand même sur une tendance plutôt exponentielle du nombre de voitures. Voilà.
Ouais, de la fréquentation de la ville. On aura l'occasion de revenir justement sur cette question de la mobilité en ville, certes, mais aussi pour les gens qui viennent de l'agglomération et qui n'habitent pas à Bourg. Je voulais revenir sur le concept de mobilité multimodale, parce que c'est un mot qu'on entend assez souvent quand on parle de l'évolution de nos mobilités. Donc c'est la possibilité en fait, d'alterner entre plusieurs moyens de transport. Aujourd'hui, on en est où sur ce sujet à Bourg-en-Bresse et quelles pourraient être les solutions d'avenir pour mettre en place cette mobilité multimodale ?
Alors là aussi, je pense qu'il faut marcher sur ces deux jambes. Il y a les offres de possibilités de multimodales. Exemple, j'habite par exemple à Courmangou, je veux aller à Bourg-en-Bresse. Aujourd'hui, le multimodal, c'est par exemple, je prends du transport à la demande jusqu'à un point de rabattement sur la ligne 12, donc c'est une ligne périurbaine, et je viens après en ligne périurbaine jusqu'au carré à Mios. Ça, c'est ce qu'on appelle du multimodal, parce que pour aller d'un point A à un point B, j'ai utilisé deux modes de transport. Aujourd'hui, le frein à cela, c'est qu'il faut qu'on continue à déployer ces transports collectifs. Voilà, donc la possibilité de laisser sa voiture pour ses trajets. Et de faire connaître ce service. Et faire connaître ce service, c'est aussi simplifier la vie des utilisateurs et des usagers. Et ça passe, par exemple, par la recherche intelligente d'itinéraires. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. En fait, pour faciliter la vie des usagers, il faut aussi qu'on leur dise très concrètement, si j'habite à telle adresse et je veux aller à telle adresse, comment ça se passe ? Et donc ça, c'est possible aujourd'hui, depuis peu, mais c'est possible, sur l'agglomération de Bourg-en-Bresse, d'avoir un calcul intelligent d'itinéraire qui facilite vraiment grandement la vie des usagers. C'est aussi possible sur les bus urbains, c'est aussi possible de rentrer dans le parcours intelligent. C'est chaque usager qui choisit son mode de transport, aussi des vélos.
Et du coup, ça passe par un système d'application ?
Exactement, ça passe par un système d'application. Donc, c'est notre délégataire qui s'en charge, c'est Keolis. Donc, via l'appli Ruby, en fait, on peut avoir ce calcul itinéraire d'intelligent. Et c'est vraiment intéressant. Alors, rien à voir, mais aussi une solution multimodale. Je pense que d'ici quelques années, en tout cas, si on se tourne sur un avenir à moyen terme, on y sera. C'est les parkings relais. C'est cette idée de pouvoir avoir sur les extérieurs de la ville des gros champs de foire, mais encore plus gros et certainement à étage pour éviter d'artificialiser la ville.
Trop les sols.
Voilà.
Ouais.
Mais ça permet aussi de pouvoir avoir une baisse significative de la place de la voiture en ville. Et du coup d'avoir un meilleur partage de l'espace public aussi pour avoir une ville qui est plus pacifiée dans ses déplacements. L'intérêt du parking relais, c'est vraiment ça. Le désavantage, c'est qu'on peut aussi conserver un mode de déplacement très voiture individuelle si on multiplie les parkings relais et on ne favorise pas forcément les personnes à utiliser un autre mode de déplacement.
Oui, c'est qu'on déplace le problème à l'extérieur de la ville.
Exactement.
Du coup.
Ouais. Mais on ne fait que déporter le problème géographiquement. On ne le résout pas vraiment. Donc, c'est comme souvent dans les questions de mobilité, il n'y a pas une solution unique, mais tout un bouquet de solutions et chacun va trouver la solution qui lui convient,
qui lui convient le mieux. Justement, par rapport à ces difficultés peut-être de changer nos modes de vie, se déplacer autrement, il va falloir mettre en place des changements qui sont parfois radicaux dans nos habitudes. Aujourd'hui, la voiture individuelle est souvent la solution de la facilité et je le dis avec toute bienveillance puisque c'est la solution que j'opte aussi moi en habitant très à l'extérieur de Bourg-en-Bresse. Mais du coup, ces changements, ils peuvent aussi entraîner des résistances. Vous, du coup, sur la vice-présidente aux mobilités, quelles sont les principales difficultés qui sont identifiées pour les habitants, mais aussi pour les élus, et qui vont devoir, du coup, être surmontées d'ici cet horizon 2050 ?
Alors, vous l'avez très bien dit en introduction, la question du déplacement, c'est un enjeu individuel et c'est un enjeu collectif. Individuel, parce que chaque besoin de mobilité est différent d'un foyer à un autre. Moi, je prends encore beaucoup ma voiture parce que j'ai deux enfants en bas âge et que, mine de rien, c'est quand même beaucoup plus simple de circuler en voiture quand on a encore des enfants qui ne marchent pas toujours bien, etc. Pour mon voisin, ça peut être je prends encore beaucoup la voiture parce que j'ai des difficultés de mobilité. Donc, en fait, chacun peut avoir une résistance au changement et avoir une bonne raison d'avoir une résistance au changement. Donc, il faut vraiment travailler sur ce changement de comportement. Et moi, je mise beaucoup sur les jeunes générations, parce que je pense qu'il y a quand même il y a quand même une évolution qui fait qu'on se questionne de plus en plus sur son alimentation, sur ses achats de vestimentaires, enfin voilà, sur tout, et également la mobilité. Et puis après, il y a ce qui est de l'ordre, j'allais dire, du collectif. Et là, j'aimerais vraiment insister sur les représentations collectives que l'on a dans nos sociétés et qui sont, je pense pas franco-françaises, mais qui sont pas partagées par toutes les cultures. On a en France l'idée du rêve absolu de la liberté qui est véhiculée, et c'est le cas de le dire, par la voiture.
C'est vrai que c'est un argument qui est souvent évoqué, la peur de perdre une certaine
exactement.
Liberté.
Exactement. Ma voiture, c'est l'extension de ma maison. Donc, je peux téléphoner à qui je veux quand je veux, je peux écouter la musique que je veux quand je veux, je peux manger, boire, etc. Et ça, je crois que cette représentation de la liberté par la voiture, elle ne pourra quand même être modifiée que s'il y a une volonté un peu du législateur aussi de faire en sorte que toutes les pubs que l'on véhicule autour de la voiture ne véhiculent pas cette image de « je suis un homme de 40 ans, j'ai réussi ma vie, j'ai un gros SUV ».
Il faut changer les imaginaires, en fait.
Il faut peut-être changer les imaginaires, comme on a pu les changer avec la cigarette ou avec l'alcool.
Tout à fait.
En disant, en fait, la voiture est un moyen de déplacement, mais ce n'est pas un rêve de liberté.
Tout à fait. Dernière question, puisque le temps file. Vous êtes du coup vice-présidente à l'agglomération de Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, c'est donc aussi une agglomération qui est entourée de communes beaucoup plus rurales et où les contraintes de mobilité, on l'a dit, ne sont pas les mêmes qu'en ville. Comment est-ce qu'on peut du coup engager cette transition vers de nouvelles mobilités sans creuser les inégalités entre ceux qui vivent en ville et ceux qui vivent en dehors ?
Alors, cette question est votre dernière, je crois, mais elle est centrale. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le projet de territoire que l'on veut porter, nous, élus d'agglomération, et elle fait appel à d'autres sujets, qui sont notamment l'aménagement durable, et surtout, et ça, c'est avec ma casquette de Grand Bourg Habitat aussi que j'aime à en parler, c'est la question de où est-ce qu'on produit du logement et où est-ce que les gens habitent. Et en fait, on ne peut pas penser la mobilité sans penser la question de l'habitat et du logement. Et il me semble que les villes de demain, ce sont des villes à taille humaine, où on trouve, en dehors, qui ne sont pas Bourg-en-Bresse, mais à l'échelle de notre territoire, où on trouve de l'habitat, y compris de l'habitat social, des transports, mais il faut absolument qu'on trouve des emplois, des services publics. Et si on arrive à créer ces pôles de vie qui sont des pôles très agréables et qui permettent de structurer notre territoire avec des zones d'activité qui sont qui apportent l'ensemble de ces services, je pense qu'on aura vraiment gagné. Le transport, c'est avant tout du lien et des rencontres. On ne se déplace jamais pour ne rien faire tout seul. On se déplace toujours pour aller découvrir quelque chose, rencontrer quelqu'un, partager quelque chose. Et le transport, en cela, c'est du lien avant tout. Et donc, il doit être multiplié. Les possibilités de transport doivent être démultipliées pour créer ce lien. Et en même temps, il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce lien reste relativement sobre pour ne pas venir enfler le bilan de carbone du territoire. Tout là est l'enjeu et la responsabilité des élus d'aujourd'hui de pouvoir construire ce territoire durable en même temps qui permet de multiplier ces mobilités tout en restant assez sobre. Et donc, ça passe par un aménagement durable du territoire et puis par un déploiement important des transports collectifs.
Parfait. Merci beaucoup Isabelle
merci
pour ces éclairages.
Merci à vous et bonne continuation de Ville Durable et du Futur.
Merci beaucoup. Si vous avez envie de continuer du coup à explorer cette question des mobilités, je vous invite à deux rendez-vous importants de la programmation Notre Ville Regard vers le Futur. Tout d'abord, l'atelier Inventons nos vies bas carbone, où vous pourrez notamment travailler sur cette question des mobilités. Ce sera le mardi 6 mai de 18h à 21h à la MCC de Bourg-en-Bresse. Et puis, pour réfléchir collectivement au Bourg-en-Bresse que nous désirons en 2050, que ce soit en termes de mobilité, mais aussi d'alimentation ou encore d'urbanisme, rendez-vous au Créaton. Ce sera l'événement de clôture de Notre Ville Regard vers le Futur. C'est ouvert à toutes et à tous. Et on réfléchira en petits groupes pour faire émerger des pistes concrète pour 2050. Ce sera le samedi 14 juin de 14h à 17h à la MCC de Bourg-en-Bresse. Ces deux événements sont gratuits, mais sur inscription, donc ne tardez pas à réserver votre place. Et bien sûr, d'autres événements sont à retrouver dans la programmation Notre Ville Regard vers le Futur qui se trouve sur la page Facebook de la MCC. Merci à toutes et tous, merci Isabelle encore une fois, et on se donne rendez-vous le mois prochain sur les ondes de Radio B.
À ton avis, Bourg-en-Bresse en 2050, ça ressemblera à quoi ?
Tu crois qu'on entendra toujours le chant des oiseaux ?
Aurais-je trop chaud dans mon appartement l'été ?
Tu penses qu'on pourra faire pousser des légumes sur le toit ?
Est-ce que je me sentirai à ma place dans cette ville ?
Est-ce qu'on sera solidaires entre nous ?
Quand on pense à la ville du futur, on se pose plein de questions.
Et toi, t'en penses quoi ?